Sigmund Freud, abrégé de psychanalyse, chapitre 9, le monde intérieur. Nous n'avons pas d'autre moyen de faire connaître une coexistence compliquée que de recourir à la successivité de la description. Et c'est pourquoi toutes nos présentations pêchent de prime abord par une simplification unilatérale et attendent d'être complétées, dotées d'un étage supérieur et ainsi rectifiées. La représentation d'un « moi » qui sert d'intermédiaire entre le « ça » et le monde extérieur prend en charge les revendications pulsionnelles du premier pour les conduire à la satisfaction, effectue sur le second des perceptions qu'il utilise comme souvenir et qui, soucieux de son autoconservation, se met en état de défense face aux demandes abusives et excessivement fortes venues des deux côtés, étant ainsi guidé dans toutes ses décisions par les directives d'un principe de plaisir modifié. Cette représentation ne concerne véritablement le moi que jusqu'à la fin de la première période d'enfance, vers les 5 ans. À cette époque, une importante modification s'est accomplie. Une portion du monde extérieur est abandonnée en tant qu'objet, du moins partiellement, et accueillie dans le « moi » par identification. Elle est donc devenue une composante du monde intérieur. Cette nouvelle instance psychique poursuit les fonctions qu'avaient exercées ces personnes du monde extérieur. Elle observe le « moi », lui donne des ordres, le dirige et le menace de punition, tout à fait comme les parents dont elle a pris la place. Nous appelons cette instance le « surmoi ». Nous la ressentons dans ses fonctions judiciaires en tant que notre conscience morale. Il reste à remarquer que le « surmoi » déploie fréquemment une sévérité dont les parents réels n'ont pas fourni le modèle. Il est également à remarquer qu'il demande des comptes au « moi » non seulement pour ses actes, mais aussi pour ses pensées et pour ses intentions non mises à exécution et qui semblent être connues de lui. Rappelons-nous que le héros de la légende d'Œdipe se sent lui aussi coupable pour ses actes et qu'il se soumet à une autopunition bien que la contrainte de l'oracle eût dû le disculper selon ce que nous en jugeons, nous comme lui. En fait, le surmoi est l'héritier du complexe d'Œdipe et n'est mis en place qu'une fois ce dernier liquidé. Sa sévérité excessive ne suit donc pas un modèle réel, mais correspond à la force de la défense qui a été dépensée pour contrer la tentation du complexe d'Œdipe. Un pressentiment de cet état de choses est sans doute à la base de l'affirmation des philosophes et des croyants selon laquelle le sens moral n'est pas inculqué par l'éducation à l'être humain, ni acquis par lui dans la vie communautaire, mais a été implanté chez lui d'en haut. Aussi longtemps que le « moi » travaille en bonne entente avec le « surmoi », il n'est pas facile de différencier les manifestations de l'un et de l'autre, mais des tensions et des étrangements entre eux se font très nettement observer. Le tourment causé par les reproches de conscience correspond précisément à l'angoisse de l'enfant devant la perte d'amour, tourment ayant remplacé chez lui l'instance morale. De l'autre côté, si le « moi » a résisté avec succès à la tentation de faire quelque chose qui serait choquant pour le surmoi, il se sent élevé dans son sentiment de soi et conforté dans sa fierté, comme s'il avait fait une précieuse acquisition. C'est de cette façon que le surmoi continue de jouer pour le moi le rôle d'un monde extérieur, bien qu'il soit devenu une partie du monde intérieur. Il représente pour toutes les périodes ultérieures de la vie l'influence de la période d'enfance de l'individu, soins donnés à l'enfant, éducation et dépendance à l'égard des parents, cette période d'enfance qui a été considérablement allongée chez l'être humain du fait de la vie commune en famille. Et par là, ce ne sont pas seulement les qualités personnelles de ses parents qui se font valoir, mais aussi tout ce qui a exercé sur eux une action déterminante. les inclinations et les exigences de la situation sociale dans laquelle ils vivent, les prédispositions et les traditions de la race dont ils sont issus. Si l'on préfère les affirmations générales et les séparations tranchées, on peut dire que le monde extérieur dans lequel l'individu se trouvera exposé après s'être détaché des parents représente la puissance du présent, son « ça » avec ses tendances héritées, le passé organique, et le « surmoi » venu s'ajouter plus tard, avant tout le passé culturel dont l'enfant doit, pour ainsi dire, revivre l'expérience dans les quelques années de sa période précoce. De telles généralités peuvent difficilement être exactes dans tous les cas. Une partie des acquisitions culturelles a certainement laissé derrière elle son précipité dans le ça. Bien des choses que le surmoi apporte éveilleront un écho dans le ça. Maintes choses que l'enfant vit à nouveau connaîtront un effet renforcé parce qu'elles répètent une expérience de vie phylogénétique très ancienne. Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le afin de le posséder. Le surmoi occupe ainsi une position intermédiaire entre le « ça » et le monde extérieur. Il réunit en lui les influences du présent et du passé. Dans la mise en place du surmoi, on fait pour ainsi dire l'expérience d'un exemple de la manière dont le présent se transpose en passé.